À l'écoute de Radio Orient, toujours le plaisir de vous accompagner, amis auditeurs, avec ou à travers votre émission Sawa Ensemble. Et ensemble, aujourd'hui, on va parler de cette 18e édition des Journées de la Schizophrénie qui démarre aujourd'hui le 13 jusqu'au 20 mars. Et pour en parler justement avec nous, le professeur Marie-Odile Krebs, professeur de psychiatrie à l'Université Descartes, chef de service au Centre Hospitalier Sainte-Anne, et aussi membre de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle aujourd'hui de cette maladie qui touche énormément de personnes, que ce soit ici en France ou à l'étranger, enfin partout dans le monde. On va parler de ce que c'est que la schizophrénie, les symptômes, les facteurs de risque, comment traiter la schizophrénie, l'opinion que ou les mauvaises idées prises par le public par rapport à cette maladie. Mais pour commencer d'abord, qu'est-ce que c'est que la schizophrénie?
Avant toute chose, la schizophrénie, c'est une maladie du cerveau. C'est une maladie qui trouve ses sources dans la physiologie du cerveau, et en l'occurrence lorsqu'elle elle subit quelques dysfonctionnements. C'est une maladie qui est très fréquente, qui est au moins 1%, enfin environ 1% de la population. Il y a des formes plus ou moins sévères, et si on englobe toutes ces formes, on est à une prévalence d'environ 2 à 3% de la population générale, hein. Il faut se représenter ce que ça veut dire. Il y a au moins 600 000 patients souffrant de cette maladie en France. Vous l'avez dit, ça touche absolument toutes les cultures, toutes les couches sociales. Une des caractéristiques, c'est que ça débute pendant la phase de l'adolescence, avec généralement une apparition des symptômes entre 15 et 25 ans, parfois un petit peu plus tôt et parfois un petit peu plus tard. Mais c'est réellement une maladie de l'adolescent.
Et ils peuvent la contracter, ou une personne peut la contracter par le biais génétique, enfin génétiquement, est-ce que c'est transmissible ou comment?
Alors, on n'a pas toutes les réponses à ces questions-là. Mm-hmm. On sait aujourd'hui clairement qu'il peut y avoir des facteurs de risque de développer une maladie. Ces facteurs de risque peuvent être de nature génétique, parfois hérités, pas toujours. Ça peut aussi être des facteurs, ce qu'on appelle de novo, des variants génétiques de novo. Donc il y a une possibilité qu'il y ait des facteurs génétiques. On sait aussi que l'apparition de la maladie elle-même, elle est aussi soumise à d'autres facteurs, notamment des facteurs d'environnement, qui sont du coup des facteurs sur lesquels on peut éventuellement agir, soit des facteurs très précoces qui agissent notamment au cours de la grossesse ou au moment de la naissance, soit des facteurs plus tardifs, notamment pendant cette période entre 15 et 25 ans.
Allez-y.
Ces facteurs d'environnement, ça peut être des choses comme des infections parfois, des malnutritions pour les facteurs précoces, ça peut être des infections ou des complications obstétricales au moment de la naissance. Ça peut aussi être, et notamment au moment de cette période plus tardive de l'adolescence, ça peut être les expositions à certaines substances, et notamment le cannabis, qui est un facteur précipitant. Et puis, ça peut être aussi des facteurs comme le stress social, le stress tout simplement. Certaines infections semblent capables de développer, d'induire une certaine forme d'inflammation. Donc, ce sont des facteurs qui vont à eux seuls pas suffire pour déclencher la maladie, mais qui sont des facteurs favorisants.
En tout cas, partout dans le monde, comme vous le savez si bien, bien des croyances ont été développées à travers le temps et dans l'espace, que ce soit dans les cultes ou les cultures, ou à travers les cultes ou les cultures. En tout cas, ça a été développé, ces croyances, ce qui a fait de cette maladie un vrai tabou. Et surtout, ça fait peur d'en parler, La plupart des personnes ou ceux qui ont ce genre de problème ont du mal à en parler. C'est pour cette raison qu'il y ait ces journées de sensibilisation autour de la schizophrénie pour informer les gens que ce n'est pas une fatalité et on peut se soigner de ce problème, n'est-ce pas?
Oui, oui, absolument. Voilà, l'image la plus fréquemment véhiculée par la schizophrénie, c'est le prototype du fou. C'est quelque chose dont il faut absolument se démarquer. Il s'agit bien d'une maladie, c'est une maladie sur laquelle on peut agir, c'est une maladie dont on peut guérir, dont on peut se rétablir surtout. Surtout, il faut absolument qu'on réussisse à informer, c'est ce que vous faites là aujourd'hui sur la maladie, pour faire comprendre que ces personnes ont toute leur place dans la société, doivent être protégées, même si dans certaines phases il peut y avoir des comportements qui peuvent être jugés un peu bizarres, avant tout, tout cela doit être soigné, protégé, et de façon à ce que les choses puissent se rétablir. Et là où vous insistez, effectivement, où c'est particulièrement important, c'est que plus vite on peut parler, on peut aller chercher de l'aide, meilleur est le rétablissement. La capacité à retrouver son fonctionnement antérieur est bien meilleure lorsque on peut avoir une prise en charge, un diagnostic précoce. Parfois d'ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr du diagnostic, mais on peut déjà agir justement sur les facteurs d'environnement dont je parlais, par exemple, réduire ses consommations de substances, par exemple, essayer d'apprendre à lutter contre le stress, etc. etc. Donc c'est absolument essentiel qu'on puisse en parler. Alors, on n'a pas décrit quels étaient les symptômes phares. Je disais souvent, on dit que c'est le prototype de la folie, parce qu'effectivement, il y a certaines manifestations qui peuvent être très impressionnantes, où les personnes sont complètement envahies par des idées délirantes, avec des croyances extrêmement fortes, qui sont sans lien avec la réalité. Il y a aussi ce qu'on appelle les hallucinations, qui sont les phénomènes sensoriels sans objet, c'est-à-dire d'entendre des voix ou de voir des choses qui n'existent pas. Et ça, c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg, c'est la partie sur laquelle tout le monde, qui fait peur, mais la réalité de la maladie, elle est aussi sur le fait qu'en dehors de ces symptômes-là, les symptômes les plus persistants et les plus gênants pour les patients, ce sont au contraire des symptômes qui sont marqués par la difficulté à réfléchir, à raisonner, à avoir envie de quelque chose, à pouvoir mettre en œuvre des choses simples, comme y compris dans les formes extrêmes, les formes sévères, simplement le fait de savoir s'occuper de soi-même, de savoir avoir une bonne hygiène. Toute l'impression d'avoir moins de sentiments ou plus de sentiments, l'impression d'être émoussé. Tous ces symptômes-là qu'on appelle les symptômes négatifs sont beaucoup moins visibles, beaucoup mieux tolérés par l'entourage, mais en fait beaucoup plus impactants sur la capacité à poursuivre ses études, à avoir une vie sociale, etc. etc. En tout cas, c'est vraiment deux aspects d'une même maladie qui rendent la vie particulièrement pénible pour les personnes qui en souffrent, avec une angoisse qui peut être tout à fait majeure. Il faut se rappeler que ce sont avant tout des personnes qui souffrent et pour lesquelles qu'on peut soulager et qu'on peut aider.
Et justement, par rapport à ces personnes, vous dites que ces patients peuvent être aidés. Très souvent, on a une association de schizophrénie, liée à la schizophrénie, mais aussi on peut avoir bipolarité et schizophrénie. Est-ce possible ou pas? Est-ce qu'on peut avoir une association d'une maladie, par exemple un autiste pourrait avoir une schizophrénie et comment il peut être pris en charge dans ces cas-là?
Alors, il existe effectivement des formes, ce qu'on appelle des formes frontières, entre les troubles, notamment les troubles bipolaires ou les troubles autistiques. C'est des choses où, en fait, ce sont des maladies qui se situent sur un même continuum avec des expressions éventuellement variables. Un trouble autistique va être caractérisé par des symptômes qui sont généralement plus précoces, et un petit nombre de troubles autistiques vont pouvoir évoluer vers un trouble psychotique, voire schizophrénique. La chose importante toujours, c'est que on avait vraiment besoin d'avoir un diagnostic, enfin une prise en charge ou une évaluation plus exactement personnalisée. Parfois, on a du mal à éditer un diagnostic avec. Enfin, le diagnostic peut être relativement complexe. Néanmoins, le fait de pouvoir reconnaître, par exemple, chez une personne qui souffre d'une schizophrénie, de reconnaître qu'il y a aussi une dimension de trouble de l'humeur qui va en faire un trouble schizoaffectif éventuellement, ça a une traduction directe, d'abord parce que c'est des personnes qui souffrent encore plus avec parfois des tentatives de suicide gravissimes, et surtout parce qu'on va pouvoir introduire un traitement contre la dépression s'il y en a besoin. Donc oui, il peut y avoir des formes avec un certain mélange des symptômes. À vrai dire, la recherche nous montre que ce continuum, il est logique parce qu'il y a aussi un certain nombre de facteurs génétiques ou d'environnement qui sont aussi partagés entre les différentes maladies.
Vous avez évoqué un point très très important qui est la consommation de drogue. Elle est entre autres le cannabis. Est-ce qu'elle serait aussi responsable de l'élévation du risque de développer une schizophrénie?
Alors, la réponse est oui. La réponse est clairement oui. Les études épidémiologiques qui ont été faites de façon extrêmement rigoureuse montrent que ça augmente le risque de développer un trouble schizophrénique. C'est une augmentation qui peut paraître minime, c'est-à-dire que globalement, le risque est doublé. En réalité, déjà, c'est un des principaux facteurs de risque identifiés. C'est surtout un sur lequel on peut agir. Et la réalité, c'est que c'est très différent selon les personnes. Certaines personnes ne vont avoir aucun symptôme ou aucune conséquence. D'autres vont pouvoir avoir des symptômes très marqués. Et en l'occurrence, c'est très, très important. On sait bien la fréquence de la consommation de cannabis chez les jeunes notamment, c'est très important d'inciter les jeunes à oser reconnaître quand ils ne se sentent pas bien après avoir fumé, parce que réellement, ça peut être les signes d'une fragilité particulière. Alors pourquoi le cannabis plus que d'autres? Parce que le cannabis en fait agit sur des systèmes du cerveau qui s'appellent les systèmes endocannabinoïdes, qui sont à l'œuvre pendant la maturation cérébrale de l'adolescence. Donc il y a un risque tout particulier avec le cannabis. Il ne s'agit pas de diaboliser les choses, mais il y a une fenêtre critique qui est cette fenêtre entre 15 et 25 ans. Il y a un effet qui est lié à l'âge, un effet qui est lié à la dose, à la fréquence, et un effet aussi lié à la concentration du THC, en l'occurrence, du tétrahydrocannabinol, qui est la substance active du cannabis. Donc, il faut faire attention et surtout il faut savoir avant toute chose s'écouter et savoir reconnaître toutes les personnes qui consomment ne sont pas seulement détendues. Certaines font des crises d'angoisse sévères, certaines ont des impressions de parano, d'autres ont l'impression d'avoir une confusion de l'esprit, etc. Il faut savoir s'écouter.
Concernant justement la vie quotidienne, schizophrénie et vie quotidienne, bien sûr, comme vous l'avez souligné, non traitée, la schizophrénie peut entraîner un développement de la situation vers peut-être certaines choses qui ne sont pas souhaitées. Est-ce qu'on peut penser que le schizophrène peut s'envelopper dans une dépression, angoisse, phobie, conflits familiaux, ce qui mène des fois à la consommation de drogue, d'alcool, isolement social, et comment même jusqu'au suicide, est-ce que il y a une prise en charge réelle au niveau de la France? Quels sont les organismes qui s'occupent de cela? Tendre la main à ces personnes dans cette situation, surtout en cette période de Covid, parlons-en.
Oui, absolument. Les choses sont évidemment entremêlées. Lorsque vous n'êtes pas bien, vous avez plus tendance à vous tourner vers, pourquoi pas, essayer de trouver un soulagement dans telle ou telle substance, etc., etc. Le fait que d'avoir des troubles, de pas être bien, d'être angoissé, va pouvoir créer des conflits intrafamiliaux. Donc oui, bien sûr, il faut. C'est un petit peu bidirectionnel, si vous voulez, c'est très entrelacé. Et la meilleure manière pour éviter justement que ça puisse mener à un isolement, un retrait qui sont évidemment très pesants pour la personne, c'est effectivement de pouvoir avoir des soins. Donc, demander vers qui se tourner, je crois qu'il faut savoir, bien sûr, en parler en famille sans tabou. Il faut en parler au médecin traitant, au médecin généraliste. Il faut en parler éventuellement au médecin scolaire ou à l'infirmière scolaire s'il s'agit de très jeunes. Il faut avant tout, effectivement, se tourner vers des professionnels qui vont pouvoir... Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas bien à un moment qu'on va avoir une maladie sévère, hein, et c'est pas parce qu'on va avoir un psychiatre qu'on va être encore plus malade. Ça va permettre d'avoir une vraie évaluation pour savoir si c'est passager, pour aussi d'identifier sur quoi on va pouvoir agir pour suivre, surveiller, et bien sûr éviter les complications qui peuvent être effectivement tout à fait radicales. Les tentatives de suicide, c'est environ 15% des patients.
On peut mener une vie de couple ayant une schizophrénie?
Absolument, on peut se rétablir d'un trouble schizophrénique et on se rétablit d'autant mieux que sa trajectoire de vie, c'est-à-dire sa formation, le fait d'avoir des contacts sociaux, n'a pas été interrompue par une période où on n'a pas le diagnostic, on n'a pas le traitement, on n'a pas la prise en charge. Donc ça aussi, c'est un facteur de meilleur rétablissement, c'est le fait que la maladie va avoir moins de conséquences sur la trajectoire de vie. Encore une fois, c'est 15-25 ans, c'est là où beaucoup de choses se jouent, y compris ces relations sociales. Mmh. Après, il est clair que c'est une maladie qui parfois peut aussi être assez sévère. Il y a des formes très sévères, il y a des formes très peu sévères. Donc c'est là où il faut pouvoir, dans tous les cas, plus on prend en charge, plus on prend, si on propose pardon, une prise en charge précocement, on va pouvoir adapter le traitement, la prise en charge. Le traitement ne va pas être que médicamenteux, il va aussi être d'apprendre à gérer son stress, d'apprendre éventuellement à récupérer des fonctions de concentration qui sont souvent très altérées. Voilà, il y a tout un ensemble de prises en charge et d'accompagnement des familles, parce que les familles sont évidemment très, très désarçonnées quand ça survient.
En tout cas, le temps nous presse pour parler de tellement de points qui restent à aborder. Certainement, on aura la joie, si vous le permettez, une autre fois. Mais une petite dernière question, docteur ou professeur Marie-Odile Krebs. Vous êtes membre de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Où est-ce que l'on est avec la recherche quant à ce problème de santé, la schizophrénie? Est-ce qu'il y a des nouvelles recherches?
Alors, la Fédération pour la recherche sur le cerveau, vous faites bien de le mentionner, c'est une fédération qui promeut finance des projets de recherche. Hein, vous trouverez toutes les indications sur leur site web. C'est absolument essentiel que cette maladie du cerveau, la schizophrénie, soit aussi les recherches sont encouragées et soutenues par des organismes comme la FRC. Les recherches, elles sont dans tous les sens, avec de grands espoirs réels de modifier les choses. On en est aujourd'hui à essayer de comprendre ce qui peut limiter l'évolution et l'aggravation de la maladie, tout en améliorant aussi les conditions d'accompagnement, de prise en charge, d'information, et avec toutes les nouvelles technologies et ce qu'elles peuvent permettre. La FRC, par exemple, a financé un certain nombre de programmes pour étudier le cerveau dans son environnement, non seulement les environnements, on l'a cité, qui peuvent précipiter des maladies, et pas seulement schizophrénie, mais aussi des environnements qui peuvent éventuellement protéger la maladie. Donc tout ce qui est c'est absolument essentiel qu'on puisse effectivement améliorer les conditions de rétablissement, de récupération, de guérison de cette maladie. Et ça, c'est quelque chose qui est accessible. J'ai la chance de coordonner un programme qui s'appelle le PsyCare, qui est un programme RHU sur les pathologies émergentes et notamment les troubles psychotiques émergents, où on va pouvoir évaluer et améliorer l'adéquation du traitement à la personne en fonction d'un certain nombre de caractéristiques, et notamment pour favoriser ce qu'on appelle la neuroplasticité, la résilience, la capacité de récupération du cerveau.
En tout cas, merci infiniment pour toutes ces informations que vous nous avez fournies. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger avec vous très prochainement autour de points qu'on n'a pas abordés. Je rappelle que vous êtes, le professeur Marie-Odile Krebs, je rappelle que vous êtes professeur de psychiatrie à l'Université Descartes, chef de service en centre hospitalier Sainte-Anne, membre aussi de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.